debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves, déprisons nos entraves. Debout, debout. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Levons-nous, femmes esclaves, et jouissons sans entrave.
Bonjour, vous êtes sur RCN 90.7 avec Debout, un collectif féministe anticapitaliste et nancéen. Moi, c'est Katia,
Isabelle,
Alison,
Alizée.
Aujourd'hui, notre thème est viol et consentement. C'est la deuxième émission de radio sur le viol. La première émission, vous pouvez bien sûr la réécouter sur notre site internet www.collectif-debout.org. Alors, une petite piqûre de rappel de notre première émission de radio. Le viol n'est pas une question des classes et des pauvretés, d'éducation ou des pays et des cultures lointaines. Non, le viol est partout. Le viol est chez nous et vous connaissez forcément quelqu'un de votre entourage qui a été violé. Nous poursuivions le but avec ces émissions de casser les tabous sur le viol et de participer au démantèlement de la culture de viol. Notre société circule des images, codes et objets qui créent une culture qui tolère et qui encourage même des comportements agressifs et d'actes de viol. La culture des viols est en tout de remarques sexistes, des images dégradantes de la femme dans les médias, comme dans les films, publicités et jeux de vidéo, on peut trouver partout, les tabous sur les violences faites aux femmes, d'éducation sexiste, etc. Cassons les mythes sur le viol. Pulsions et besoins sexuels ne sont pas les raisons pourquoi les hommes violent. J'ai dit les hommes parce que les agresseurs sont majoritairement des hommes. Le débat éternel sur les mini-jupes et les viols n'a pas non plus ni queue ni tête. Ça devient surtout clair si on réfléchit sur l'argumentation des mini-jupes et les viols des enfants. Les viols est un acte qui a comme unique but à oppresser et à dominer les victimes. Les hommes violent parce qu'ils peuvent le se permettre. Nous consacrons cette émission viol et consentement de vous donner quelques réponses et exemples aux questions comment éviter les viols, comment créer une culture qui ne laisse pas de place au viol et comment faire que toute personne développe des comportements respectueux et bienveillants. Ainsi comme la question si je suis survivante des viols, comment et où peux-je trouver l'aide à Nancy? Pendant l'émission, vous allez entendre une survivante des viols, Isabelle, qui va nous témoigner de nouveau de son propre parcours, comment elle a pu continuer à vivre avec les vécus enfantins des viols et comment elle a trouvé de l'aide à Nancy. Bon, mais avant tout ça, on fait une petite piqûre de rappel où on ajoute aussi quelques nouveaux trucs. On va vous présenter les catégories des viols. Alors à toi, Alison.
Oui, alors... On distingue, il y a le viol conjugal qui a été reconnu seulement depuis 1992 par la loi. Avant, le devoir conjugal était une obligation qui rendait le viol inconcevable entre époux. Il y a aussi le viol de guerre qui est une stratégie militaire mûrement réfléchie par les dirigeants. On ordonne aux soldats de violer des femmes comme on ordonne de bombarder des villes pour affaiblir l'ennemi. Et aucune guerre n'est épargnée. C'est la réplique des lectures du monologue du vagin. Il y a aussi le viol correctif qui cible en particulier les personnes LGBT, principalement les lesbiennes, dans le but de les punir de leur homosexualité et de changer leur orientation sexuelle, comme si c'était possible.
Et moi, je vais faire une petite parenthèse sur un viol collectif. Voilà, c'est important de parler sur le viol collectif aussi. Bien sûr, par exemple, les viols de guerre, la plupart des temps, ce sont des viols collectifs. Alors, un viol collectif est un viol où plusieurs agresseurs violent une ou plusieurs personnes ensemble. Le fait d'agir en groupe peut changer les comportements d'habituels des agresseurs. Le groupe peut développer une dynamique qui laisse assouplir le sens de mœurs, des habitudes, des perceptions. Le fait d'être en groupe peut avoir comme conséquence que les personnes ne reconnaissent plus qu'ils sont en train de violer. La violence est clairement banalisée et sa perception s'étouffe en rigolade entre mecs. Alors, pour donner un exemple, qui n'est pas un exemple d'un viol de guerre, c'est un exemple, c'est le viol collectif de Steubenville. C'est une petite ville dans les États-Unis. Et on peut en même temps dire que cette viol collectif de Steubenville, c'est une image tellement choquante de la culture de viol de notre pays, de nos pays occidentaux. Alors, c'est pour ça que on peut parler de cette viol collectif, parce que voilà. Alors, le viol collectif de Steubenville survient en août 2012 dans une ville située dans l'Ohio, aux États-Unis. Voilà, et une lycéenne qui sort avec des joueurs de foot, une lycéenne. Elle boit tellement l'alcool à ce point qu'elle est inconsciente. Et cette lycéenne a été violée par au moins deux étudiants du lycée de Steubenville, des joueurs de football américains qui favorisent de leur école à la carrière prometteuse selon plusieurs médias. Les deux agresseurs transportent l'adolescente dans différentes fêtes où elle subit des viols. Et ce qui est hallucinant avec cet exemple, c'est que plusieurs personnes enregistrent puis diffusent les agressions dans les médias sociaux. Les jeunes sont en extase, rigolent et disent des trucs affreux sur la victime. Et ils ne reconnaissent et ne perçoivent pas qu'ils sont en train de commettre un crime. La question si elle va avoir éventuellement un bébé, par exemple, est évoquée pendant des rigolades. Mais les garçons rigolent et disent que ce n'est pas possible parce qu'elle est encore plus morte que Jésus-Christ hors du tombeau et des choses comme ça. La victime ne se rappelle le lendemain absolument pas de la soirée parce qu'elle était inconsciente. Mais après la diffusion des vidéos par Internet, les parents de la jeune fille portent plainte contre les deux agresseurs. Une des difficultés de l'affaire réside dans l'absence de preuves médicales. L'adolescente qui a été retrouvée par ses parents dormait sur la pelouse le lendemain matin et en se lavant, elle a éliminé des éventuelles traces de l'ADN. Par ailleurs, le délai entre les faits présumés et le dépôt des plaintes est trop long pour vérifier s'il a été drogué. Voilà, mais bon, ça, on laisse à côté. C'est juste, elle s'est lavée et du coup, après coup, c'était du coup difficile. Prouver qu'elle était vraiment, vraiment violée. Dans cet exemple, comme c'est d'ailleurs souvent le cas, s'il y a un scandale, on parle aussi souvent des scandales de sexe et pas des scandales de viol. Les médias cherchent la faute des viols, surtout chez la victime. Et ça illustre très très bien la chaîne CNN dans une manière choquante. Alors voici un extrait de la présentatrice Poppy Harloff. Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça. C'était incroyable, émouvant, incroyablement difficile, même pour quelqu'un de l'extérieur comme moi, de voir ce qu'il s'est passé alors que ces deux jeunes hommes, avec un avenir tellement prometteur, des joueurs de football stars, des très bons étudiants, de les regarder alors qu'ils croyaient que leur vie s'écroulait. Il s'agit des crimes très sérieux. Ils ont tous les deux été jugés coupables d'avoir violé cette jeune fille de 16 ans à une soirée qui s'est déroulée en août. Une soirée avec de l'alcool. L'alcool qui joue un rôle important ici. Alors du coup, on voit que cette présentatrice de télévision elle a plus de pitié avec les deux joueurs de foot que se pose la question qu'est-ce qui est passé à la jeune lycéenne qui était violée en état d'être inconscient. Alors au final, pour montrer cet exemple, les deux joueurs des adolescents de 16 ans, ils étaient condamnés pour viol pour un tribunal pour mineurs. Ils étaient, comme je disais, ils étaient condamnés. Mais malgré tout, cet exemple montre quand même très bien que les médias s'intéresse surtout aux agresseurs et qu'il y a une transmission sur l'image que les victimes ne deviennent plus, ne restent pas les victimes, que les victimes, que la faute est chez les victimes et plus chez l'agresseur, etc. Et je trouve intéressant aussi cet exemple des viols collectifs parce que les jeunes adolescents, ils ont plus dans leur dynamique des groupes, ils ont même plus remarqué qu'ils sont en train de violer, qu'ils sont violents. C'était plus visible. Bon, une autre catégorie des viols, c'est viol par abus d'autorité.
Oui, alors un phénomène qui est aussi extrêmement répandu, c'est donc le viol par abus d'autorité. C'est quelque chose qu'on rencontre souvent dans le domaine médical. On a souvent des soucis les médecins. Peuvent se rendre coupables de ce type d'agression. Et c'est quelque chose... On ne parle pas de cas isolés. On ne parle pas de faits divers qui arrivent une fois tous les 100 ans. C'est quelque chose qu'on peut rencontrer partout autour de nous. Moi, dans le village où j'ai grandi, il y avait un médecin qui utilisait donc un procédé anesthésiant qui avait pour particularité de provoquer des pertes de mémoire. Il s'en est servi pour violer plusieurs patientes, c'était dans les années 90. Donc il a été condamné plusieurs années après. Un médecin, c'est quelqu'un en qui on a confiance. On lui confie notre corps, donc c'est un pouvoir énorme. Et on peut facilement en abuser. Donc ça, c'est un exemple extrême. Mais le problème du consentement du patient en milieu médical, c'est quelque chose qui est omniprésent. Et ça ne se limite pas à ça.
Exact, ça ne se limite pas à ça. D'autres exemples pour viol par abus d'autorité, ce sont des personnes dans lesquelles normalement on a aussi beaucoup de confiance, comme par exemple les prêtres ou des éducateurs, ou des personnes qui s'occupent des enfants. Alors, j'ai aussi une petite rappel, d'abord en Irlande, après en Allemagne en 2010, il y avait beaucoup, beaucoup de scandales qui passaient par les médias, des scandales, des viols, des abus sur des enfants, sur des mineurs qui ont été connus. Et qu'est-ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que, voilà, même après 30 et 40 ans, les personnes, les victimes ont parlé sur leur vécu des viols. Pendant 30 et 40 ans, ils étaient silencieux. Bien sûr, ça n'avait plus aucune conséquence judiciaire, mais le tabou a été cassé. L'Église en Allemagne a été forcée de réfléchir sur le viol, que le viol est partout, aussi dans l'Église. Voilà. Alors, ça, c'était les catégories sur le viol. Et maintenant, il y a une chanson de la rue qui est à nous qui parle aussi des viols, qui s'appelle « Derrière six cheveux ».
Elle m'en a parlé qu'à peine, derrière ses cheveux longs. Toi tu fais pas l'amour, tu fais la haine. Elle ne m'a jamais dit ton nom. Elle m'a juste dit qu'elle était ivre, que tu en avais profité, qu'elle n'aurait jamais voulu te suivre, que tu l'avais forcé. Qu'elle ne tenait même plus debout, que sans doute tu l'avais portée. Elle ne se souvient pas de tout, elle ne se souvient pas, mais elle sait. « laissé toute nue ton venin entre ses cuisses et ta puanteur d'inconnu et le bord d'un précipice. Depuis sa folle jeunesse, elle est pas pareille. Depuis sa folle jeunesse, elle est devenue vieille. Et moi, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas comment tu fais pour prendre ce que tu oses prendre à une femme qui va te dégueuler. Les hommes leur a bien du mal à nous aimer, à se donner quand elles se donnent, à se laisser aller. Et quand je lui dis que je l'aime, je vois la crainte dans son regard. Et quand je lui dis que je l'aime, elle refuse de me croire. Elle m'en a parlé qu'à peine, derrière ses cheveux longs. Elle m'en a parlé qu'à peine, elle m'a jamais dit ton nom.
C'est pas un drame, c'est juste une femme. Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames, est traitée comme un paillasson, et quelle que soit la façon, quelle que soit la femme, dites-vous qu'il y a mort d'âme. C'est pas un drame, juste des femmes.
Bonjour, vous êtes sur RCN 90.7 avec le collectif Debout. Notre thème d'aujourd'hui, c'est viol et consentement. Alors maintenant, vous allez entendre un témoignage. Nous avons la chance d'avoir Isabelle avec nous, qui a déjà témoigné la dernière fois et voilà, qui avait bien envie de revenir parce qu'il y a des trucs qu'il n'a pas encore pu dire la dernière fois. Et voilà, alors du coup, vous allez entendre Isabelle.
Yep.
Alors, Isabelle, pour toi, le viol, c'est quoi ?
Mais c'est une horreur complète. Je dis ça en rigolant, mais c'est une protection. C'est, oui, le viol, c'est tuer quelqu'un. Tout simplement. Le zigouiller, et dans son corps et dans sa tête, psychiquement. C'est lui voler toute son énergie. Voilà, ce que j'avais appelé l'autre jour un meurtre psychique.
C'est ça. Et tu as déjà parlé aussi de la première émission, un peu sur les mémoires traumatiques et les mémoires corporelles. Mais tu disais que c'est important de revenir vite fait là-dessus, de le renommer encore une fois, parce que ça peut aider oui. aux victimes. Alors, est-ce que tu peux résumer encore une fois en quoi c'est tellement important de savoir qu'est-ce que c'est une mémoire traumatique ?
La mémoire traumatique, c'est ce qui va... C'est ce qui va arriver quand on subit des violences, que ce soit un viol ou que ce soit des faits de guerre, enfin des tortures. Voilà, les gens se retrouvent avec des mémoires traumatiques. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que le vécu est tellement impossible à comprendre et à intégrer que l'appareil psychique, c'est le travail de l'amygdale cérébrale, ne peut pas se faire. C'est-à-dire que les émotions... ne peuvent absolument pas être gérées. Rien ne peut être géré. Donc, l'appareil psychique souvent se déconnecte. Il y a même dissociation. Et toutes ces mémoires-là, elles ne peuvent pas être gérées donc jusqu'au bout, être triées, être engrangées quelque part, être assimilées. Et du coup, elles vont être mises dans une espèce d'oubliette. Et ces mémoires traumatiques vont être là, en suspens, et vont devenir des bombes à retardement. Bombes à retardement et puis même à sous-munitions, parce que l'angoisse sévère qui a été vécue et qui n'a pas été intégrée du tout, elle peut remonter n'importe quand, à n'importe quel propos, n'importe quel sujet, même des choses qui n'ont absolument rien à voir, pour un mot, une odeur, une situation. Et du coup, ces mémoires traumatiques vont pourrir intégralement la vie de la personne à tous les niveaux, ou presque. Et puis, donc la personne va se retrouver à être en situation de défense permanente contre tout, déjà contre soi, et puis contre tout, en fait. Essayer de tout contrôler, ce qui est impossible. Parce que la mémoire traumatique, ça fait ça. Ça fait perte de contrôle, ça fait des pics d'angoisse.
Surtout la victime sait jamais qu'est-ce que va déclencher cette crise. Comme je disais, ça peut être une odeur, ça peut être un mot, ça peut être un regard, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors du coup, pour la victime, c'est absolument pas clair qu'est-ce que...
D'autant plus que la plupart du temps, les personnes victimes de viol ne vont pas se souvenir, ou vont, en tout cas, c'est le réflexe de survie, hein. Tout va être fait psychiquement pour oublier et pour mettre vraiment le peu de souvenirs qu'il peut y en avoir aux oubliettes, quoi. Vraiment, on passe tout à la trappe. Savoir que quand ça arrive, les personnes en plus se font ce qu'on appelle une dissociation. C'est une déconnexion de soi-même qui est imposée. C'est une sauvegarde, quoi. C'est ni plus ni moins que ça. Les gens se retrouvent dans le noir absolu. Alors après, les comportements de dissociation peuvent se reproduire de tas de façons différentes. Et souvent même, quand il y a une trop grosse angoisse qui monte et qu'on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, enfin, c'est un truc sur lequel on n'a pas la maîtrise du tout. Du coup, les personnes, la plupart du temps, mettent en place des comportements, souvent à risque, très souvent, pour arriver à nouveau à se déconnecter. Parce que c'est ingérable, c'est invivable, cette angoisse-là. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être reproduire, passer sa vie à reproduire la situation du viol. C'est souvent ce qui arrive, d'ailleurs. Les gens qui se sont fait violer, surtout dans l'enfance, une fois, généralement, ça se reproduit toujours, encore et toujours. Et ça, c'est une horreur, quoi.
Et du coup, si ça se reproduit... à ton avis, pourquoi ça se reproduit?
Alors, l'appareil psychique, malgré tout, est un truc super bien fait. C'est que les mémoires traumatiques, donc ces trucs-là pas gérés du tout, elles aimeraient bien quand même être gérées parce qu'elles pourrissent le terrain entièrement. Donc ça remonte de temps en temps. Pourquoi ça remonte? Parce que quand il y a un truc qui dérange comme ça, on a envie de l'éjecter. Enfin, je sais pas, quand on mange un truc qui est pas frais... Le corps, il essaye de l'éjecter, mais là, c'est pareil. Le psychisme essaye quand même de faire avec ce truc qui est là. C'est comme une espèce de poltergeist, un gros fantôme qui pourrit l'ensemble de l'édifice, quoi. Et qui souvent, va faire du bruit pour qu'on s'occupe de lui. Alors, ça peut être une façon de retrouver de la mémoire, parce que voilà, souvent, c'est oublié complètement.
Surtout si c'est le cas comme c'était pour toi, toi qui étais violée dans son enfance, t'as dû faire un très très grand travail personnel pour savoir que tu as été violée, c'est ça?
Oui, au départ je ne cherchais pas ça du tout puisque je n'en savais rien, enfin pas consciemment, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui avait complètement déconné, je ne savais pas quoi. J'ai eu la chance, quand j'ai attendu mon fils, j'ai décidé d'aller trouver le moyen de savoir pourquoi je passais beaucoup de pans de ma vie à dysfonctionner, alors que c'est pas du tout ce vers quoi je tends profondément, quoi. Hein. Et puis, en cherchant, on finit par trouver. Et c'est vrai que, bon, voilà, j'avais des souvenirs, j'avais des flashs, des petits flashs de souvenirs de choses qui étaient pas cool, mais je... Voilà, c'est comme on entrouvre une porte, on voit que derrière, c'est pas terrible, alors on n'a peut-être pas trop envie d'y aller. Alors on referme la porte, puis on attend un autre jour pour... Parce que c'est...
C'est un travail en plusieurs couches.
Waouh, c'est un travail de dingue, en fait. Je dis ça, ouais. C'est... Alors, il y a un côté comme ça super passionnant, hein. Du coup, je découvre que l'appareil psychique était un truc... C'est une vraie merveille.
D'ailleurs, j'ai noté ce que tu m'avais dit, que tu m'as envoyé par mail. Mm-hmm. On en profite pour dire ces adresses Internet aussi, ici, dans l'émission, parce que ça peut être des bonnes adresses pour des victimes. Alors, il y en a un site Internet de l'Association internationale des victimes de l'inceste, qui s'appelle aivi.org. Et alors, du coup, sur ce site, il y a des formes d'entraide, de rejoindre un groupe de parole, à qui s'adresser. Il y a vraiment plein d'informations. Et aussi une deuxième site internet qui peut être utile d'en avoir, c'est mémoiretraumatiquetoutattaché.org. Voilà, alors du coup, tu as fait le puzzle pendant des dizaines d'années voilà, pour savoir que tu as été violée. Et aujourd'hui, si tu penses en arrière, comment sont cessés les viols de ton enfance? Qu'est-ce que t'as sauvé?
Mais en fait, sauvé, je sais pas si j'y suis. En fait, déjà, qu'est-ce qui fait que ça s'est arrêté? Mais en fait, en étant gamine, il y a eu un moment où j'ai compris que l'obligation de silence qui m'était faite, il fallait pas en parler. Évidemment, l'agresseur, il veut pas faire autre chose que de jouer de son autorité, parce que voilà, il s'agit de ça, pour de son autorité, puis aussi de sa relation avec, là en l'occurrence, l'enfant. Un enfant, il, c'est normal qu'il soit aimé par les gens qui l'entourent. Mais alors, pour lui, un enfant, il sait pas de quelle façon ça peut exister ou pas, enfin... C'est l'entourage qui lui apprend. Donc déjà, savoir que ça dysfonctionne et que c'est complètement déconnant, voilà. Donc quand j'ai compris que c'était pas normal, qu'il se passait des trucs pas normal, et que en face il y avait, j'ai compris qu'il y avait la peur quelque part de que je parle. Un jour, j'ai menacé, j'ai dit que j'allais parler, j'allais le dire.
En fait, tu as menacé ton agresseur.
Ouais. Il faut le faire, hein, avec des mots. Non, j'ai dit que j'allais le dire. J'ai dit que j'allais le dire. Et voilà, ce type s'est arrêté. Mais bon, ce type, c'est pas... Finalement, c'était même pas ce qu'il y a de pire. Pourtant, je pense que ça a été plusieurs fois. C'était celui d'avant, parce qu'il y a eu un avant.
Oui.
Et parce que ce type-là n'était pas... Enfin, c'était pas quelqu'un de méchant. Ça reste délicat, voilà, où sont les frontières, ça reste délicat, mais celui d'avant, donc le premier, qui était un des frères de ma mère, culé. Non, c'est pas un beau mot, mais surtout que pff, ça veut rien dire, mais bon, lui c'était très violent, une fois, oui. Mais ça a été
très violent,
une horreur, oui. Mais j'ai retrouvé donc ses mémoires, morceau par morceau. Je suis obligée de faire le travail encore aujourd'hui. C'est morceau par morceau, petit pas par petit pas, parce que je peux pas confronter la situation en un bloc. C'est pas possible, parce que je pense que je mourrai une deuxième fois. Vraiment. Hein, d'ailleurs, toutes les personnes qui ont été abusées, hommes ou femmes, hein, peu importe, ont des problèmes de santé derrière, à plein de niveaux différents. Mmh. Mais ils sont les problèmes de santé. En plus, hein, ces gens sont attaqués de plein de façons. Enfin,
oui, de plein de façons. Et les suicides, ça joue toujours un rôle. Alors, toi aussi, t'as une petite vécu des suicides, hein, même si tu es encore en face de moi là aujourd'hui.
Pour l'instant, je suis là. Mais oui, c'est vrai que alors ça va mieux maintenant. depuis que donc j'ai pu faire ce travail de remonter les mémoires et de les évacuer, c'est-à-dire de les, faut revivre les choses, bon, mais bout par bout, les revivre, bah c'est pas facile, hein, ça, wow, ça bouffe une énergie, c'est, mais oui, en plus de tous ces problèmes et psychiques et de fonctionnement, de dysfonctionnement et des problèmes de santé, de toute façon, quasi toutes les personnes deviennent dépressives, mmh. Voilà, et suicidaires souvent parce que quand il y a pas de possibilité que les choses changent alors qu'on fait tout ce qu'on peut pour que la vie passe à autre chose et que ça s'arrête, quoi. Enfin, et y arriver à un moment, c'est ça, c'est, faut que ça s'arrête. Il faut que l'angoisse, donc les mémoires traumatiques qui refont surface et qui emmènent tout, voilà, y a un moment, faut que ça s'arrête. Sauf que faut que ça s'arrête quand on est complètement débordé, pris entièrement et complètement associé je vais appeler ça malaise, mais le mot est bien gentil.
Assez fort, oui.
Ouais. Ben ouais, il y a une solution, hein. Ben on appuie sur le bouton éjecte et puis on s'élimine, quoi. On se sort du. Alors il y a plein de gens qui trouvent des solutions. Il y a beaucoup de dépendance à l'alcool, aux drogues dures, hein, je crois. Je parle pas de la marijuana ou alors dans des quantités invraisemblables, parce que c'est des façons de se déconnecter. C'est voilà, c'est et c'est ou en tout cas d'arriver à d'appuyer sur le bouton pause, le fameux bouton pause, faut que ça s'arrête, quoi. Sauf que ça revient toujours, et à force de pas en être sorti, ben oui, les gens finissent par se flinguer.
Alors aussi une petite chose qui est intéressant de savoir ou de parler dessus, c'est que toi, tu t'es violée quand tu es enfant et tes parents, ils n'étaient absolument pas en courant de ça. Et alors du coup, l'autre jour, on avait réfléchi comment ils auraient pu savoir que tu étais violée. Qu'est-ce que ça peut être des signes par ce moment l'enfant? Quels étaient les signes chez toi?
C'est mission impossible, en fait. Enfin, réellement, quoi. Je sais que moi, j'ai pas eu à régler ça vis-à-vis de mes parents parce que il aurait fallu que je puisse être en capacité de dire. Alors c'est curieux parce que je me rends compte, voilà, j'ai menacé, j'ai dit que j'allais le dire, donc ça s'est arrêté. Donc du coup, moi-même, je suis, enfin, en plus un enfant, c'est con, mais c'est souple, hein. Et c'est passé autre chose, donc ça s'est arrêté. Donc j'ai jamais rien dit. Ils n'ont jamais su parce que je n'ai jamais rien dit. Voilà. Et puis d'ailleurs, je me le suis même pas dit à moi-même. Avant de pouvoir dire quelque chose aux autres, faut déjà en avoir conscience soi-même. Alors, à cet âge-là, entre 6,5, 7 et 8,5, bon, enfin, court toujours, quoi. Après, c'est vrai que j'ai eu des comportements comme ça qui étaient vraiment super strange. Je me suis retrouvée, voilà, ce qui aurait pu mettre la puce à l'oreille, mais c'est débile parce que ça n'a aucun rapport. C'est que, voilà, le soir, quand j'allais au lit, enfin, on mettait au lit, gamine, enfant, j'ai commencé à me manger les doigts, mais jusqu'au sang. Et voilà, c'est l'incompréhension.
C'est pour ça que tu appelles ça manger les doigts, parce que c'était pas que manger les ongles.
Non, je me mangeais pas les ongles. Oui, c'était très bien, je me mangeais les doigts. Et puis ça a plusieurs significations, quoi. C'est-à-dire que les doigts, les mains, c'est ce qui permet d'avoir une prise sur la matière, hein, de tenir, d'attraper les choses et de les manipuler. Or là, plus de prise sur rien du tout. En tout cas, sitôt, c'est bizarre. Et puis aussi le fait de mordre ses doigts et d'être bon, c'est un truc d'angoisse fort, quoi. Mais aussi c'est l'incapacité de parler, de
les mots, en fait. Tu dis les mots, c'est il faut poser les mots aussi pendant, ouais. Pour tous les une des méthodes thérapie sans mettre le mot, tu dis que c'est pas possible. J'ai entendu plusieurs fois dire ça.
Ah, c'est mission impossible, ouais. Ouais. Ouais, ouais.
Et par rapport aussi les méthodes de traiter ce travail de couche en couche pour les problèmes psychiques, les conséquences des viols. Est-ce que tu peux nous faire vraiment, parce qu'elle est
ouais,
trop cool,
ça tombe vite.
Une résumé.
Ouais.
Qu'est-ce que tu, à qui tu t'as adressé? Qu'est-ce que t'as aidé?
Comme
quelle
je savais
forme
pas,
de
voilà,
thérapie?
Comme je savais pas du tout que c'était ça que je cherchais, j'en savais rien. Donc, au départ, moi, j'ai essayé de trouver une psychologue pour voir pourquoi je dysfonctionnais. Je voulais pas continuer comme ça parce que je me retrouvais qu'un enfant. En plus, seul avec. Donc, pour moi, c'était important et urgent. Bon, je suis tombée sur quelqu'un avec qui ça convenait pas du tout. Quelqu'un qui regardait sa montre au beau milieu d'une phrase, qui était capable de me dire « Bon, la demi-heure est passée. » Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé. Mais après, chacun a trouvé sa propre méthode ou thérapie. Il y a tellement de choses, quoi. On a de la chance... Pour l'instant, on est en France et la sécu existe encore. Mais c'est pas évident. Moi, j'ai trouvé par hypnose. J'ai fait un travail avec des psychiatres par hypnose parce que depuis toujours, j'ai toujours fonctionné beaucoup avec les images, le rêve, beaucoup avec le rêve. Depuis toute petite, je fais des rêves conscients, ce qu'on appelle des rêves conscients, endormis ou pas d'ailleurs. Et donc, moi, je voulais aller voir là où je voyais pas déjà. Et puis, il fallait que ça aille vite pour moi, quoi. Je dis ça en même temps, ça fait 18 ans, et je voulais que ça aille vite, quoi. Et ça fait quoi? Ça fait 2 ans que j'ai mis le doigt dessus, hein. Alors ça marche bien, donc moi maintenant je travaille en hypnose, pas l'hypnose ericksonienne qui est la plus classique, mais en hypnose EMDR. C'est une technique d'hypnose qui utilise le mouvement oculaire des yeux. C'est du Eyes Movement Desensitization and Reprocessing. Donc voilà, pour traiter les mémoires, désensibiliser par rapport aux impacts émotionnels, entre autres, hein, parce que c'est pas que l'émotionnel, c'est l'émotionnel en fait est vachement lié aux cellules, à la chair, quoi. Je suis capable de remonter des souvenirs, des trucs qui sont réellement vécus de l'intérieur et profondément ancrés dans le corps, quoi. Et j'ai encore pas fini. Et ça marche super bien. Puis reprocessing, bah, c'est qu'est-ce qu'on remet à la place, comment on se reconstruit, ça c'est un gros morceau qui se fait, j'ai de la chance, ça se fait en même temps, quoi. Mais ouais, c'est balèze, c'est du sport de haut niveau. D'accord. Ni plus ni moins.
Alors, avec ton vécu de viol, c'est difficile pour toi d'avoir un travail régulier. En fait, pourquoi c'est difficile?
Ça c'est compliqué parce que c'est complexe en fait ce qui se produit. C'est que du coup la confiance en soi elle est pas à zéro, mais ça fonctionne pas. Il y a ça. Le relationnel, c'est pas que ça marche pas, mais ça dysfonctionne aussi. Voilà. C'est comme j'avais fait une image, je sais plus la dernière fois, je pense, une maison qui a une porte qui a été complètement qui a été bousillée et bon, sur une maison, c'est facile de remettre une porte, de reconstruire, chez un individu, psychiquement, c'est long et compliqué. Et du coup, par exemple, là, aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai pas le droit d'être fatigué. J'ai pas le droit d'être fatigué parce que c'est... parce que du coup, je me retrouve à nouveau en situation d'extrême fragilité. Mmh. Parce que je n'ai pas l'énergie nécessaire pour être en vigilance. C'est-à-dire que les personnes qui ont été violées, se retrouvent la plupart du temps en vigilance permanente pour essayer de compenser les défenses qui ont volé un éclat, enfin qui ont été complètement bousillées. Et puis ça je vais parler mal, mais ça fait foirer entièrement la représentation,
oui,
du monde. C'est pas que le travail, hein, c'est un tout.
C'est un ça tout. Veut dire t'as des moments de fragilité.
Oui.
C'est tu préfères te replier sur toi,
te
rester à la maison.
C'est
et
exactement.
Du coup, tu ne peux pas possible. Oui. Est-ce que tu as encore un message aux survivantes des viols?
Ouais. L'important, c'est vraiment de trouver là les bonnes personnes. Et vraiment pas hésiter à aller voir des professionnels. Mais j'allais dire quels qu'ils soient. Bon, après, évidemment, des gens fiables. Hein, on parlait tout à l'heure de certains médecins foireux, pourris. Bon, j'arrête là les adjectifs, mais bon, ça existe, mais trouver les bonnes, trouver vraiment les bonnes personnes et puis commencer à ouais, mettre des mots, c'est super important parce que c'est mettre la situation en face de soi, en dehors de soi, et commencer à mettre une distance, à regarder les choses, à pouvoir attraper et morceau, petit pas par petit pas, avoir un début, un bout de maîtrise sur un truc qui est, ben, qu'on a maîtrisé jamais, en fait. Puisque c'est subir intégralement. Et souvent, y a plein de gens qui ont ce vécu-là. On leur a dit, oh, bah oui, mais... j'ai lu des témoignages il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai commencé à réussir à lire des témoignages. Mmh. Et il y a beaucoup de personnes, notamment quand ça leur arrive enfant, où l'agresseur, comme défense, va dire, ah bah oui, mais elle n'a pas dit non, quoi. Un enfant.
Oui.
Et c'est vrai que la loi française, là-dessus, est considérée, jusqu'ici, t'es considéré pour qu'un viol soit considéré comme un viol, il fallait qu'il y ait clairement...
un non.
Un non, un refus.
On va parler plus voilà. tard, qu'est-ce que c'est ouais. un non. Parce que les noms, c'est pas que le mot
un
non.
Un enfant, enfin, voilà.
Voilà.
Pas un enfant, d'ailleurs, mais bon, voilà.
Oui. Et bon, on va passer à notre prochaine chanson.
Yep.
Et c'est une chanson que toi, tu connais bien.
Oui.
Alors,
c'est une chanson de Barbara. C'est une chanson de Barbara qui s'appelle L'Aigle Noir. C'est vrai que quand on l'écoute, c'est une chanson très poétique. D'ailleurs, ce n'est pas Barbara qui l'a écrit, mais c'est elle qui l'interprète. Et c'est une belle chanson, comme ça, hein, d'aigle avec... couronne de pierres précieuses, enfin il a des beaux yeux noirs, il arrive comme ça, prouf. Puis la chanson est chouette parce qu'à la fin c'est comme avant, rallumer les étoiles, comme avant dans mes rêves d'enfant, comme avant. Et en fait, un jour j'ai appris, je sais pas, c'était une interview de Barbara, un jour Barbara a dit que en fait cette chanson-là lui tenait particulièrement à cœur, enfin que cette chanson-là parlait du viol qu'elle avait vécu elle. Alors, c'est vrai que du coup, j'ai réécouté la chanson, je ne l'ai plus entendue du tout pareil. Et comble de l'ironie, quand j'étais enfant, après, par la suite, mais je ne devais vraiment pas être supérieure, je ne sais pas, je devais avoir 10 ans, maxi. Je faisais partie d'une chorale, et c'est une chanson qu'on m'a fait chanter.
Autant que Camille.
Bah... Et toute seule.
Oui, ça c'est, comme tu dis, le comble...
Mais je ne le savais pas, enfin, tu vois, c'était pas... Et cette chanson-là, ouais, ben, comme avant. C'est de réparer, c'est ça. C'est...
Merci, Isabelle, pour ta force que tu t'es menée avec nous, et maintenant la chanson.
Un beau jour. Ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant.
On dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles et des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. L'aigle noir dans un bruissement d'ailes pourrit son vol pour regagner le ciel. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit? Je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac.
Vous êtes sur RCN 90.7 avec le collectif Debout. Notre thème d'aujourd'hui, c'est viol et consentement. Alors, on arrive au consentement. Le consentement pour nous, c'est une prise de conscience et prévention contre les viols. Demander le consentement, c'est la demande de l'accord d'une ou plusieurs personnes pour une action. Le consentement, c'est demander et vérifier que l'autre a bien envie d'eux. Il ne s'agit pas uniquement d'une tolérance, que l'autre tolère de ce que je veux faire, que l'autre n'a pas dit non, que l'autre ne m'a pas repoussé. Un consentement, c'est un accord entre deux parties, les deux parties ont envie d'eux, et les deux parties se sont mis d'accord sur. Pour comprendre le oui, évidemment, il faut également comprendre le non. Le non, je n'ai pas envie d'eux. Qu'est-ce qui veut dire non? Pour ceci, l'extrait du monologue des chattes.
On aurait tort de penser que les viols sont toujours commis par d'illustres inconnus, car 74% d'entre eux sont le fait de personnes proches de la femme violée et 67% ont lieu chez elle ou chez l'agresseur. Un viol, c'est une relation sexuelle non consentie, avec ou sans pénétration, avec ton, tes compagnons, avec un inconnu, avec ou sans violence physique. Le viol, ce n'est pas seulement l'image stéréotypée d'un gros méchant qui nous poursuit avec une arme dans une rue sombre, mais c'est aussi un moment où on n'entend pas notre nom.
Pas maintenant.
Ça veut dire non.
J'ai une copine.
Ça veut dire non.
Peut-être plus tard.
Ça veut dire non.
Non merci.
Ça veut dire non.
C'est pas mon genre.
Ça veut dire non.
Va te faire foutre.
Ça veut vraiment dire non.
Laisse-moi tranquille.
Ça veut dire non.
J'aime bien, mais...
Ça veut dire non.
Ne me touche pas.
Ça veut dire non.
Allons juste dormir.
Ça veut dire non.
Je suis pas sûre.
Ça veut dire non.
Tu as trop bu.
Ça veut dire non. Ça veut dire non.
J'ai mal à la tête.
Ça veut dire non.
Le silence.
Ça veut dire non.
Non, ça veut dire non.
Non. Et oui, ça veut dire oui.
Alors pour un petit rappel, c'était les extraits des monologues des chattes. C'est une brochure disponible également sur notre site internet collectif-debout.org. Pareil pour comprendre qu'est-ce que c'est un consentement sexuel. Il y a une petite vidéo bien marrant qui explique un consentement sexuel par une tasse de thé.
Oui, alors pour celles et ceux qui ont encore des doutes sur le consentement, il y a une petite vidéo de Blue Seed Studio intitulée Tea Consent qui explique tout ça très simplement avec une tasse de thé.
Précision, le discours s'adresse à une personne, qu'elle soit un homme, une femme ou ni l'un ni l'autre. Si vous avez encore du mal avec le consentement, imaginez simplement qu'à la place de démarrer une relation sexuelle, vous prépariez une tasse de thé. Vous dites « Hé, est-ce que tu aimerais une tasse de thé ?» Et elle dit « Oui, j'adorerais une tasse de thé. Merci. Maintenant, vous savez qu'elle elle veut une tasse de thé. » Si vous dites « Hé, est-ce que tu aimerais une tasse de thé ?» Et qu'elle répond « Tu sais, je ne sais pas vraiment. » Alors, vous pouvez faire une tasse de thé, ou pas, mais ayez conscience qu'elle peut ne pas le boire. Et si elle ne le boit pas, attention, passage important, ne la forcez pas à boire. Que vous l'ayez fait ne veut pas dire que vous ayez le droit de le faire boire. Si elle dit non merci, alors ne faites pas de thé. Du tout. Simplement, ne lui faites pas de thé. Ne la forcez pas à boire le thé. Ne soyez pas fâchée si elle n'en veut pas. Elle n'en veut simplement pas de thé, ok? Elle peut dire oui, c'est gentil. Et quand le thé arrive, elle n'en veut plus. C'est sûr, c'est ennuyeux, car vous avez fait l'effort de faire du thé. Mais il n'y a aucune obligation de boire le thé. Elle en a voulu, et maintenant elle n'en veut plus. Certaines personnes changent d'avis entre-temps, et on a le droit de changer d'avis. Il n'y a rien de mal à ça. Et vous n'êtes toujours pas autorisé à le forcer à boire. Et si la personne est inconsciente, alors ne faites pas de thé. La personne inconsciente ne veut pas de thé et ne peut pas répondre à la question « Veux-tu du thé ?» parce qu'elle est inconsciente. Ok, peut-être était-elle consciente quand vous lui avez demandé si elle voulait du thé et elle avait dit oui. Mais le temps de faire chauffer la théière, d'infuser le thé et d'ajouter du lait, elle est maintenant inconsciente. Vous devez tout simplement reposer le thé et vous assurer que la personne est en sécurité. Et c'est encore une partie importante. Ne la faites pas boire de thé. Elle avait dit oui, c'est vrai, mais les personnes inconscientes ne veulent pas de thé. Si quelqu'un a dit oui pour un thé et commence à le boire et perd conscience avant de finir, ne continuez pas à verser le thé dans sa gorge. Mettez le thé de côté et assurez-vous qu'elle est en sécurité. Parce que les personnes inconscientes ne veulent pas de thé. Faites-moi confiance. Si elle vous dit oui pour un thé samedi dernier, cela ne signifie pas qu'elle veut que vous lui fassiez du thé tout le temps. Elle ne veut pas que vous alliez chez elle à l'improviste pour lui faire du thé et la forcer à le boire. En disant « Mais tu voulais du thé la semaine dernière ?» Ou se réveillant en vous trouvant en train de lui verser du thé de force dans sa gorge en tout en disant « Mais tu voulais du thé hier soir ?» Si vous pouvez comprendre à quel point il est ridicule de forcer quelqu'un à boire du thé quand il n'en veut pas, et que vous pouvez comprendre, est-ce que vous pouvez comprendre que ce soit aussi ridicule quand il s'agit de sexe ? Que cela soit du thé ou du sexe, le consentement, c'est tout. Et sur ce, je vais me faire une petite tasse de thé. Donc je rajouterai pour le témoignage que qu'il y a aussi une brochure sur le consentement qui pose des tas de questions utiles et que je ne peux que vous conseiller.
Alors le consentement, qu'est-ce que veut dire non ? Qu'est-ce que veut dire oui ? Expliquer un tasse de thé, c'est beaucoup plus clair. Voilà. Le consentement, je vais juste faire une toute petite parenthèse, mais très très court. Je n'avais prévu parler plus longtemps là-dessus, mais on va le raccourcir. J'ai juste posé la question par rapport à la prostitution. Si on peut parler d'un consentement, le consentement, oui, j'ai envie d'eux avec toi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un consentement si il y a un échange d'argent? Voilà, alors un échange d'argent, est-ce que c'est vraiment un consentement par rapport à la prostitution? C'est une toute petite parenthèse que j'ai envie de poser là. Sinon, on parle maintenant sur éducation, et prévention contre les viols.
Oui, alors on peut se demander le consentement, si c'est quelque chose d'aussi essentiel à tout le monde, pourquoi ce serait pas enseigné à l'école? Eh bien, officiellement, l'éducation à la sexualité doit être dispensée dans les écoles, les collèges et les lycées, avec un minimum de 3 séances annuelles. On doit notamment évoquer la contraception, bien sûr, mais aussi la notion de consentement. Dans les faits, on est bien loin de l'objectif affiché. Il suffit de discuter avec quelques lycéens pour se rendre compte que l'éducation sexuelle, ça se résume bien souvent à enfiler un préservatif sur une banane, quand ça passe pas tout simplement à la trappe faute de budget ou de personnel qualifié. Le résultat, c'est que les jeunes grandissent en s'imaginant que l'amour, c'est comme dans les films. On dit rien et tout se passe comme par magie. Donc, j'aimerais bien rappeler ici à tous les jeunes ou moins jeunes qui nous écoutent que la magie de l'amour, c'est la communication. Il faut parler avec ça ou son partenaire. Et pour savoir si elle ou il a envie, on peut lui demander, tout simplement.
Par rapport au viol, je vais vous rappeler où on peut trouver l'aide à Nancy. Mais bien sûr, on peut porter plainte, c'est pas toujours facile. Le truc le plus important par rapport à ça, vous trouvez tout plein d'informations par l'internet, tout facile, comment porter plainte. Mais une chose à vraiment souligner, c'est que emmener une personne dans laquelle vous avez confiance. Sinon, je vais vous dire aussi encore deux, trois trucs. C'est le CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, qui peuvent vous accueillir si vous êtes victime. Il y a aussi le 3919, c'est le numéro d'écoute nationale unique et anonyme. Voilà, ou les numéros verts SOS, que vous trouverez tout facile à l'internet. Voilà. Malheureusement, on n'a pas, dit-on, parlé sur les initiatives pour démonter la culture des viols. On va mettre un petit article aussi sur notre site internet collectif-debout.org et on finit avec la chanson de Cyrano. Cyrano, la chanson, elle s'appelle... Merci. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut savoir en écoutant cette chanson? C'est d'une point de vue de la peluche d'ours qui observe des choses, qui observe l'abus sexuel entre un fille et son père.
Je te regarde vivre, j'ai du mal à te reconnaître. Il me semble que tu viens de naître. Où est passée la chipicanine et sa malice? Les joues roses et le menton taché de réglisse. Où est la gamine qui me serrait fort, sans craindre qu'on la juge à tort? Tu n'as pu grandir et oublier que je veillais tes songes posés sur ton oreiller. Tu as toujours ce visage d'ange quand tu dors, un néon trompette et des boucles d'or. Une princesse dandine auprès de la dinette, lovée quelque part sous des airs de midinette. Qui sont les princes qui t'ont enlevé, pour qui tu te fais belle et qui ont achevé notre complicité? Tu sais, je suis fier de toi même si je rends mon insignifiance à la poussière. Tu es devenue aussi belle que je suis inerte, mais j'ai peur que tu te perdes. Tu as laissé l'adulte étouffer l'enfant et dans son lit prendre place lentement, oubliant le simple bonheur naïf des madeleines et la chaleur des bas de laine. Tu as arraché mon cœur de mousse et brisé la frimousse de la poupée de porcelaine. Du fond du mal, je vois qu'ils te font du mal. Tu as rangé nos fables et ne ris plus de mes histoires. Oublie toute ton enfance, tu ne pleures plus sur moi ton innocence. Et moi j'ai peur du noir. Parfois tu me rends visite, par nostalgie je vois que tu hésites à me sortir de là en voyant mon bras que tu avais recousu d'un geste maladroit. Tu te souviens les gros chagrins, les éclats de rire dans les parfums de chocolat chaud, les doigts qui brûlaient après la morsure du froid que tu venais réchauffer sur mon ventre gras. Pourquoi tu m'as abandonné? Je sais que quelque chose a changé, je ne suis qu'un ours en peluche et je peux pas parler, mais je sais quoi dire quand je te vois pleurer. Je sais que tu n'as pas oublié et que tu gardes précieusement les instants où l'on riait, mais que tu fuis pour ne te préserver. Tu sais, j'étais là le soir où il est entré dans ta chambre, a éteint la lumière, à jamais sur ton cœur d'écolière. Quand il t'a dit que c'était normal, qu'il t'aimait trop mais pas assez pour éviter sa colère. J'étais là quand t'as fait mal, j'étais là même impuissant. Et quand il est parti, j'ai vu qu'il avait tout pris. Mais je t'en prie, ne vieillis pas en grandissant. Du fond du mal, je vois qu'il est fond du mal.
Voilà, alors juste pour ajouter que le collectif Debout est maintenant sur Twitter. Vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook, notre site internet www.collectif-debout.org ou en venant à notre prochaine réunion mensuelle, ce sera le 16 décembre à 19h au CCN 69 rue Mont-Désert à Nancy.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves.
debout.